Nous allons lire ensemble depuis un certain temps. Je prends l'habitude de lire la parole à l'unisson, vers la lecture commune avec le peuple de Dieu, histoire qu'ensemble, nous découvrons la parole, nous regardons ensemble ce que le Seigneur nous dit à nous tous. Nous allons lire les 26 premiers versets pour continuer cette sous-série qui s'intitule « L'adoration qui glorifie Dieu ». Je ne vais pas donner des informations à la régie. On est toujours « L'adoration qui glorifie Dieu », le frère Dodley. 1 Samuel chapitre 15, les versets 1 à 26, à la gloire du Seigneur. Et nous lisons ensemble, frères et sœurs, en respectant les signes de ponctuation. Vous faites ça tellement bien. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre. » 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 26, à la gloire du Seigneur. 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 26, à la gloire du Seigneur. Est-ce que vous y êtes? Ah là là. Ok. Vous m'avez aidé à bien faire mon devoir. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour ton roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. » Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montaient d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Skur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoit par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulaient pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'était... Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalek, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et t'as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici. » Amen. Et le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous rasseoir, frères et sœurs. L'adoration qui glorifie Dieu. On est peut-être au sixième sermon, depuis qu'on a annoncé ce sous-thème. Je vérifierai avec la régie. Eh bien, comme je le disais la fois passée pour l'histoire du roi Ozias, je prends pour acquis que le peuple de Dieu connaît bien cette histoire, hein, qui, au terme d'une dizaine d'années dans l'Église, n'a pas eu la grâce d'écouter un sermon sur 1 Samuel chapitre 15, ou tout au moins sur la vie, eh bien, du roi Samuel. Je crois que vous êtes nombreux ou à s'être fait raconter cette histoire quand nous étions à l'école des enfants. Hein? Nous avons toujours la grâce de voir dans la Bible qu'il y a de ces histoires qui nous sont très, très, très familières, frères et sœurs. Une d'entre elles, eh bien, c'est l'histoire de Samuel. Il y a des gens qui pensent que quand ils lisent des histoires de ce genre, l'histoire sur la vie de Samuel ou sur la vie du roi Ozias, du roi David, c'est pas des écrits qui nous sont laissés parce que nous sommes tous des leaders ou des dirigeants. Bien sûr, si on est leader, on est dirigeant, on a besoin de porter plus spécialement attention à des passages de ce genre. Mais les enseignements contenus dans ces passages-là ne sont pas destinés seulement aux chefs de famille, ou aux pasteurs, ou au président de République. Comprenez-vous ce que je dis, frères et sœurs? C'est adressé à tous les chrétiens en général. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Eh bien, vous le voyez. Vous le voyez. Dieu appelle Samuel et il confie une mission à, il appelle Saül, il confie une mission à Saül, donne à Saül un travail à faire, un mandat, une responsabilité. C'est ce que nous voyons. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Verset 1er. Donc c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui œuvre. C'est Dieu qui délègue. C'est Dieu qui confie un travail, une mission à un homme en sa qualité de roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Dieu lui confie la mission, le mandat, la responsabilité, le travail Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa rationalité, Dieu prend le temps de lui expliquer le bien fondé de la mission. Dieu aurait pu ne pas le faire, mais il le fait. Pourquoi? Le texte ne nous le dit pas, mais il le fait. Dieu dit, tu vas faire ça pour moi et voilà pourquoi tu vas le faire. Avez-vous remarqué cela? Détruis Amalek de fond en comble. Parce que Amalek ferma le chemin à Israël à sa sortie d'Égypte. Si vous lisez Exode 17, vous voyez l'histoire. Vous verrez cette histoire-là. Quand et comment Amalek ferma-t-il le chemin à Israël qui s'en allait vers Canaan, la terre promise. Plusieurs années avant le règne de Saül, Israël, tandis qu'il s'acheminait vers Canaan, avait subi des attaques de différentes nations. Il devait traverser, il y en a, et dont il devait traverser le territoire. Il y en a à qui il avait demandé la permission de traverser le territoire. Il y en a qui étaient d'accord, d'autres qui ne l'étaient pas. Il y en a qui étaient gentils avec Israël et d'autres qui n'étaient pas gentils avec le peuple de Dieu. Et Amalek, le pays d'Amalek, il y a Amalek comme individu, il y a Amalek comme pays. Amalek ici comme territoire, comme pays, comme nation, ou alors les Amalécites. Amalek donne Amalécite, tout comme Haïtien donne Haïti, donne Haïtien, Haïtienne, Canada donne Canadien, Canadienne, vous vous rappelez, président? Amalek était de ceux qui n'étaient pas gentils avec le peuple du Seigneur. Et alors, Dieu avait promis de venger les attaques subies par Israël de la main des Amalécites. Et là, on est des années plus tard, hein? Dieu n'a pas oublié la promesse de vengeance qu'il avait faite à Israël. La sagesse de Dieu estime maintenant que le temps est bien pour Dieu de venger son peuple, victime des méchancetés, des mauvais agissements d'Amalek, est arrivé. Le moment est maintenant venu. Des années après, hein, le mot est venu. Avant d'aller plus loin, un petit peu de théologie, ça sera pas là. Vous vous rappelez, l'autre jour on est allé évangéliser, j'en ai parlé au retour, je parlais au bien-aimé, à mes compagnons de ministère, de gens qui abordent la fameuse question de si Dieu est bon, pourquoi il nous fait wocher comme ça, hein, c'était le mot que la personne avait utilisé, alors je me permets de l'utiliser entre guillemets, pourquoi Dieu nous fait wocher? Alors il voulait parler de la question de la souffrance. Dieu et la souffrance. Et ceux qui posent cette question-là peuvent aussi se demander comment se fait-il que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de bonté, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, comment se fait-il que Dieu ordonne la destruction d'Amalek, la destruction de tout un peuple, de son contenu, hommes et femmes, enfants et nourrissons. J'ai une réponse pour vous. Et la réponse est que nous sommes la propriété de Dieu. Et Dieu peut disposer de sa propriété quand il veut, comme il veut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah ah. C'est tout. Dieu est souverain. Tout comme nous aussi, vous et moi, cette bouteille d'eau m'appartient. Je peux la jeter, je peux la vider, je peux la remplir, je peux la... Où qu'on est? Pas vrai, frère et sœur? Dieu peut décider de nous quand il veut, quand il veut. Merci, serviteur. Alors, si Amalek pouvait s'arroger le droit de porter la main sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu, Il savait qu'il était Israël. Mais à plus forte raison, Dieu a le droit de venger son peuple, lui qui est l'auteur de la vie, lui qui est l'auteur de l'existence. Donc, c'est à ces choses-là que nous devons prendre l'habitude de nous référer lorsqu'il y a des questions difficiles comme ça qui nous viennent en tête. Toujours, réfugions-nous dans la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, frères et sœurs. Hein? C'est ça la réponse. Samuel, vous avez lu le texte avec moi, vous connaissez cette histoire. Samuel obéit à l'ordre du Seigneur, consistant à aller attaquer les Amalécites. Verset 4 nous dit, Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm, hein, c'est-à-dire les fouettés troupes, les dénombrés, les gardés, les encouragés, les voyés. Et le texte continue pour dire au verset 4 qu'il y avait, hein, donc preuve qu'il en a fait la revue, qu'il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Le verset 5 dit, Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek. Il obéit à l'ordre du Seigneur. Avez-vous remarqué cela à l'oratoire? On va répondre. Il obéit. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek, verset 5. Non seulement il a marché, mais il a travaillé également. Il mit une embuscade dans la ville. Le verset 7 renchérit pour dire ceci. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Skur. Il obéit. Skur, le texte nous précise qu'il est en face de l'Égypte. Au verset 8b, il est écrit, il est dit, il est signalé, il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Avez-vous remarqué qu'il a obéi? Il a fait son possible. Sauf que son obéissance est partielle. Il a obéi à l'ordre divin à environ 90%. Je ne sais pas quelle évaluation vous en faites. Quelle estimation vous en faites. Sauf qu'il obéit à 90%. Avez-vous remarqué ça? Il obéit. C'est un serviteur, c'est un homme de Dieu. Mais son obéissance n'est pas totale. L'homme de Dieu, il fait une partie de ce que le Seigneur lui demande de faire et il en laisse une autre. Autrement dit, il glorifie Dieu dans quelques aspects de sa vie. Il ne glorifie pas Dieu dans tous les aspects de sa vie. Il honore Dieu sur un point de sa vie, sur un aspect de sa vie. C'est comme si Mdadou, Livine n'en priait. Il fréquente les temps de prière, mais ne pas payer la dîme. Il y adorait, mais ne pas attendre des messages, paroles, bon Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec l'exemple ça? Parce que c'est souvent là, oui, que ça blesse. C'est quand on se met à appliquer la parole, à donner des exemples. Et on ne peut pas prêcher autrement. Il n'est pas dans l'adultère, mais il est dans la jalousie. Est-ce qu'on est d'accord avec l'exemple ça à l'oratoire? Autrement dit. Alors, il y a de ces aspects de sa vie où il honore Dieu et d'autres où il ne l'honore pas. C'est surprenant pour un roi d'Israël. Je le disais pour David. Je le disais également pour Nadab et Abihu. C'est surprenant
Mais c'est ça la vie aussi, c'est ça la nature humaine. C'est surprenant pour un roi d'Israël de ne pas se rappeler cette vérité élémentaire selon laquelle, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, dans l'église de Dieu, dans l'évangile, dans le service, dans l'adoration, dans la glorification de Dieu, l'obéissance partielle équivaut à la désobéissance. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il chante les louanges de Dieu, mais il n'est pas persévéré. Et à certaines fois, quand nous réfléchissons sur ces choses-là, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la vie chrétienne? Nous y reviendrons. Nous reviendrons sur la question de l'obéissance partielle, l'appréciation divine de l'obéissance partielle, la réalité de l'obéissance partielle. Quelle est l'opinion de Dieu? Quel est le point de vue divin? Quel est le point de vue du ciel quant à l'obéissance partielle? Nous y reviendrons. Mais avant, pour s'assurer, le peuple de Dieu, pour s'assurer de ne pas nous tromper sur cette désobéissance voilée, revoyons ensemble ce que la Bible dit, ce que Dieu lui a demandé de faire. Qu'on en songe, je sais que tu t'en rappelles, mais pour s'assurer de ne pas nous tromper, revoyons bien ensemble ce que Dieu lui avait dit de faire, frères et sœurs. Revoyons verset 3. Revoyons ensemble ce que Dieu lui avait dit de faire. Sœur Tama, ou bien frère Sergo, ou bien l'oratoire, ou bien groupe des femmes, ou bien conseil d'église, ou bien pasteur, l'ange de l'église, hein, frappe Amalek. Est-ce que l'église est là? Bon. Numéro 1. Numéro 2, la jeunesse, dévouée par interdit tout ce qui lui appartient. Troisièmement, Dieu veut s'assurer que le message est clair. Et on ne peut plus clair. Une fois que Dieu a fini de dire, dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, il n'a pas besoin de dire, tu ne l'épargneras point. Mais il le fait de crainte que son serviteur, que l'Église, ne prétexte cause d'ignorance. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Tu ne l'épargneras point. Et tu peux, tout est déjà clair, oui, mais Dieu de rajouter, Dieu de vouloir continuer à clarifier son saint message, sa sainte ordonnance. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Est-ce que Dieu parle de chétif ici? Est-ce que Dieu parle de gros ici? Est-ce que Dieu parle de bien en forme, bien engraissé ici? Est-ce que Dieu parle de roi quand il parle de roi ici? Regardez ce que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, pauvre Samuel, regardez ce qu'il a fait. Verset 9. Verset 9. Saül, pardon, ce n'est pas Samuel, Saül. Et de nous tellement ressemblé, comment ces mêmes gens. Mais, verset 9. Si vous voulez lire avec moi, c'est correct. Mais sinon, m'appelez pour contre moi. Mais Saül et le peuple, le mec qui tue, le mec est là, hein? C'est comme cependant, par contre, hein? C'est par contre. C'est à l'opposé de ce que Dieu a demandé. C'est ça le mais signifie, le connecteur logique mais. Mais ça tranche, ça fait comme, ça coupe avec ce que Dieu a demandé, hein? On n'est pas dans la continuité. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Agag, c'est le roi d'Amalek, le roi amalécite. Il est pas. Il est pas. Dans ce que nous venons de lire là, Dieu avait dit d'épargner le roi. Ben ouais, il est pas, lui. Son orgueil l'a poussé à l'épargner. Il veut l'avoir comme trophée. Ah, s'il présente le roi captif, vivant, ça renforce son autorité, son pouvoir. Est-ce que l'église est là? Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, il les épargne tous. Et tout ce qu'il y avait de bon, il ne voulut pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Tu veux que j'applique la parole? Tant pas besoin, hein? C'est tant pas besoin du toit, c'est l'île, by bon Dieu. Faut que j'applique. Est-ce que l'église est là? Ça n'a pas besoin, ça n'a pas fait le souffrir. Ce qui ne le fait pas souffrir, c'est ce qu'il donne à Dieu. C'est quand il a fini de tout payer, qu'il va mettre l'argent de la dîme à côté. Avez-vous compris? Il regarde autour de lui, il n'y a plus de dépenses à faire. Là, le reste, il paye la dîme avec ça. Est-ce qu'on comprend l'église du Seigneur? Et ils dévouèrent tout ce qui était méprisable et chétif. Et le verset 8 de nous avoir dit en haut, verset 8b, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. En d'autres termes, chrétien ça, serviteur ça, cette servante, ce chrétien, ce serviteur, il fait ce qu'il veut de la parole de Dieu, de l'instruction de Dieu. Il fait ce qui lui semble bon avec la parole de Dieu. Est-ce que j'exagère en appliquant la parole de cette manière, frères et sœurs? Il applique la parole de Dieu selon les penchants de son cœur. Il applique la parole de Dieu selon son humeur. Il applique la parole de Dieu selon ses motivations. En quoi j'exagère? En quoi un prédicateur exagère-t-il d'appliquer la parole de cette façon-là, frères et sœurs? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ce que nous voyons. L'autorité suprême ici, ce n'est pas Dieu, mais c'est Saül lui-même. Ce n'est pas la parole de Dieu, l'autorité, c'est un homme qui s'appelle Saül. Il décide de ce qui est bien, il décide de ce qui est mal, il va très loin. Il ratisse large, comme on dit dans le pays où nous vivons, frères et sœurs. Ce n'est pas Dieu qui décide. On s'aperçoit qu'il est à la fois maître et serviteur. Il est à la fois maître et serviteur. Ainsi, là où Dieu ne fait pas d'exception, lui, il en fait. Avez-vous remarqué cela? Là où Dieu ne fait pas d'exception, lui, il en fait. Il s'arroge le droit de faire exception. Alors, si serviteur ça, ou est chaos, si l'église a gagné 3-4 serviteurs comme ça, l'église finit, oui. Tu vas avouer, frère et soeur? Ou est chaos, second, en tout cas. Dieu avait vu ce qui se passait quand dans son cœur, il avait conçu de trier, de sélectionner qu'est-ce qu'il va appliquer de ce que Dieu lui a demandé. Quand au tréfond de son cœur, il avait pensé à le faire, Dieu le savait déjà. Je n'ai pas besoin de vous dire pour quand il a commencé à le faire. Dès l'instant, qu'est-ce que je raconte? Même avant, Dieu savait qu'il ne le ferait pas, qu'il en prenait une partie et qu'il en laisserait une autre. Même avant, même depuis l'éternité, Dieu le savait. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, frère et sœur? Quand il l'a conçu dans son cœur, à plus forte raison que Dieu le savait. Et quand il l'a posé là, quand il est passé à l'acte, Dieu l'a su. Mais lui ne le savait pas. Il ne savait pas que Dieu le savait. C'est toujours ça le problème avec la personne. Elle ne se rend pas compte que Dieu le sait. C'est ta femme qui ne le sait pas, c'est ton mari qui ne le sait pas, c'est tes parents qui ne le savent pas, c'est toi qui ne le sais pas, c'est l'église qui ne le sait pas, c'est le pasteur, le conseil qui ne le sait pas, mais Dieu le sait. L'un des problèmes de l'église, c'est que il y a trop d'athéistes dans certaines églises dans le monde. C'est-à-dire les gens qui croient en Dieu, mais qui en même temps n'y croient pas. Ça paraît contradictoire, des croyants athées. Athées dans le sens où, on parlait aux études publiques, on avait dit, tout problème spirituel, c'est un problème de foi. Tout problème spirituel est un problème de confiance. Croyez-moi. On peut faire un exégèse là-dessus pour le démontrer. Tout problème spirituel, je répète, tout problème spirituel est un problème de foi. Quand la personne fait ça,
Et puis, elle se plaît à le faire, à le dire. La personne oublie Dieu dans l'équation, le paramètre divin qui est, il l'oublie ou elle l'oublie. En réalité, la personne ne croit pas en Dieu. C'est ce qu'on peut appeler un chrétien athée, un croyant athée. Quand il agit, Dieu n'est pas là, Dieu ne le voit pas. Or, pourtant, l'abécédaire de la Bible nous dit que Dieu est partout, en même temps, il est en tout lieu. Pas vrai, frère et sœur? Il nous regarde. Alors, au verset 10, Dieu est décousu. Dieu est en peine. Dieu est dans la consternation, frères et sœurs. Le Dieu biblique intervint. Lui qui prenait des notes, lui qui regardait, il intervint au verset 10. Verset 10, frères et sœurs. Dieu sait tellement bien qu'il a sélectionné de sa parole qu'est-ce qu'il va appliquer ou pas. Que Dieu délègue son serviteur Samuel auprès de lui pour lui parler. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, verset 10, peuple de Dieu, et je m'avance vers le verset 11, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Pourquoi, Seigneur? Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Je ne sais pas si Dieu fait référence à une situation semblable qui s'est produite au chapitre 10, du chapitre 10 au chapitre 13. Ou s'il s'appuie seulement sur cette dernière désobéissance. Je ne sais pas si Dieu combine les trois situations. Parce qu'il en a fait pareil au chapitre 10. Une fois que Dieu dit cela à son serviteur, à l'église, eh bien, Samuel se rapporte auprès de lui. Verset 13. 12 à 13, Samuel se rapporte auprès de lui. Et une fois que Samuel arrive auprès de Saül, verset 13, je ne sais pas s'il s'est levé, s'il s'est mis debout. C'est comme ça m'a prêché jusqu'à la fin, je ne suis pas pressé. Il dit à l'homme de Dieu, sois béni de l'Éternel. Il est dans la désobéissance. Il prononce des bénédictions de la part de l'Éternel. Et comme si ce n'était pas suffisant, verset 13, j'ai observé la parole de l'Éternel. Frères et sœurs, nous sommes tous des adultes. Aidez-moi à comprendre. Moi, je suis en chair, mais vous pouvez prêcher. Tout le monde ici présent peut prêcher. Aidez-moi à comprendre. C'est quoi son problème? C'est quoi le problème de ce serviteur, de ce chrétien, de cette femme, de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu? C'est quoi son problème, frères et sœurs? J'ai observé la parole de l'Éternel, oui. Parole, vous et moi, nous sommes gardés là, oui. Il se moque de Dieu, il se moque de l'église, du serviteur de Dieu. Il n'est pas dans la volonté de Dieu, il dit, je suis dans la volonté de Dieu. Les gens parlent d'unité, ils parlent d'unité aussi, pourtant c'est lui qui a fait division. Les gens parlent de sainteté, de sanctification, il en parle aussi, pourtant lui-même n'est pas dans sainteté. Les gens parlent d'intégrité, les gens parlent de communion, les gens parlent de fréquentation d'église, il ne le fait pas et puis lui il en parle. Quel est le problème de ce serviteur, de cet homme de Dieu, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris du message de Dieu pour agir de cette manière? Ok. Samuel dit, voilà. Je paraphrase. Tu as observé la parole de l'Éternel? Oui. Si c'était vous et moi, on lui ferait répéter ça deux à trois fois, pas vrai, frères et sœurs? Tu as observé la parole de l'Éternel? Oui. Je veux que tu me répètes ça une deuxième fois.
Tu as observé toute la parole de l'Éternel? Oui. Et qui bruit animal ça me donne derrière Kaïwa? Est-ce que l'église est là?
Et que Claude n'est pas là aujourd'hui, on va considérer l'autre monde là qui fait droit. Mais en droit, on parle de ce qu'on appelle habeas corpus, le corps du délit. Le corps du délit est là. Parce que les animaux ramenés sont là. Et si c'était Timoun,
si c'était des enfants, tu leur dirais, taisez-vous, Timoun, dormez, dormez, pas vrai? Mais là, c'est des animaux, tu ne peux pas leur parler en leur disant de pas crier, comprenez-vous, frère et soeur? S'il était capable, il aurait empêché aux animaux de crier.
Verset 14. Oui, tu as observé. C'est moi qui rajoute ça, hein, comme paraphrase, hein, ça se fait. Et qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends? Laissez-moi vous dire une chose. J'ai déjà pris cet exemple à l'église. Hein. S'il fait noir là, s'il fait noir ici dans cette salle ou dans le pays, il n'y a personne qui voit rien qui se passe. Et on ferme les portes, les fenêtres de nos chambres, tout est noir. Noir, vraiment le vrai noir là. Pas de lumière, même un petit brin d'éclairage. S'il y a une fourmi dans la salle, Dieu sait où est-ce que se trouve la fourmi. Si vous perdez une aiguille dans une boîte de foin, Dieu est capable de la retrouver. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est l'Église qui ne sait rien, mais Dieu sait tout, hein? Ah, je vais ouvrir une parenthèse que je refermerai immédiatement. J'ai presque fini de prêcher. Je vais juste parler du plan rédempteur, puis c'est terminé. L'Église du Seigneur. J'ai ouvert une parenthèse. Samuel dit, il y a un enseignement ici au verset 14. Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Autrement dit, le serviteur de Dieu est confronté. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il est confronté. C'est la parenthèse que je veux ouvrir. Nous n'aimons pas tous la confrontation, pas vrai, frères et sœurs? Nous sommes des gens paisibles, nous ne voulons pas qu'il y ait de chicane, nous ne faisons pas de confrontation. Il y a un serviteur, il y a quelques serviteurs à qui je parlais de confrontation, il disait, si on pouvait trouver un autre mot, c'est vrai, malheureusement j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. On va l'appeler une sainte et saine confrontation, en face à face. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Nous n'aimons pas tous la confrontation, surtout dans certaines cultures dans le monde. Mais souvent, la confrontation est nécessaire, oui, frères et sœurs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ah, on va répondre, ça veut dire pas d'accord. Il est confronté à plusieurs reprises dans ce texte. Ici, il est confronté. Il aurait pu s'en aller, Samuel, et dire à quelqu'un, écoutez, je suis allé chez lui là, je lui ai dit, est-ce qu'il, je lui ai même pas demandé s'il a observé la parole de l'Éternel, il me dit qu'il a observé la parole de l'Éternel. Écoutez, savez-vous, j'ai entendu tant de bêtes qu'après les dents à la rue. Est-ce que ça existe, frère et sœur? Samuel n'a pas fait ça, il veut son bien. Il le confond. Est-ce que l'église est là? Si tu veux faire bien à ton frère, à ta soeur, tu peux le ou la confronter. Pourvu que la confrontation se fasse dans l'amour du Christ, avec la Bible en main. Ce n'est pas Dieu qui a dit, exhortez-vous les uns les autres. Ce n'est pas Dieu qui a dit, veillons les uns sur les autres, veillez les uns sur les autres. Mais oui, tu peux confronter ton pasteur. Moi, j'aime mieux qu'on me confronte plutôt que de parler dans mon dos. Toi, peut-être c'est la même chose pour toi. Pas vrai, frère et sœur? Ils le confrontent. Si tu es capable de parler à la personne calmement, la Bible en main, voici où est-ce que tu as erré, voici où est-ce que tu as péché. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi et un tel. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi une telle. Ça se fait. Tout le monde est content. C'est bon pour la santé des relations dans l'église et dans la famille. Pas vrai, frères et sœurs? Il va le faire. Il va continuer à le confronter. Et alors, lorsque nous sommes confrontés, ne nous offusquons pas. Ne nous fâchons pas. Je vous dis, essayez. Il y en a qui ont déjà essayé. Viens me parler à Fouor. Dis Fouor, viens me parler. Dis pasteur, je pensais que ça devait se faire. Dès que vous prenez les bons moyens, vous allez voir. Je veux d'abord être capable de prêcher par l'exemple. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? c'est mieux pour tout le monde la confrontation saine et sainte, la confrontation biblique, la confrontation faite sur la base de la volonté de Dieu. Si tu n'es pas capable d'exhorter, faites pas de confrontation, parce que tu vas jeter de l'huile sur le feu. Mais si tu es capable de le faire, après avoir prié, tu appelles ton frère, tu lui dis, écoutez bien, d'après ça, tu as péché, puis c'est bravo, c'est réglé. C'est ça nos besoins, frères et sœurs, pas vrai? Et il l'avait déjà dit au verset 13, au chapitre 13, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne dirions pas ça. Ça va. Ok, c'est pas grave. Nous ne dirions pas ça. Mais on voit, il l'a déjà confronté par le passé, parce qu'il sait que c'est ce qui est bon pour lui. Frères et sœurs, je vais arrêter m'arrêter ici. Je veux m'assurer de vous dire sur la base des versets 20 à 20, à continuer un peu, jusqu'à 24, qu'il n'y a jamais de bonne raison pour désobéir à Dieu. Jamais. Je répète, il n'y a jamais de bonne raison pour ne pas écouter la voix du Seigneur. Jamais. Quand il a dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, 20 à 21, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, parce qu'il a répété la même chose qu'il a dit tout à l'heure, à savoir, j'ai observé la parole de l'Éternel. Là, il le dit d'une autre manière. Et en le faisant, il a jeté la responsabilité sur les autres, sur le peuple de Dieu. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. C'est pas lui, c'est le peuple. Oh. Voici ce que Samuel lui dit. Verset 22. L'Éternel couvre-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça que j'ai appelé tout à l'heure. Il n'y a pas de bonne raison pour ne pas écouter la voix de l'Éternel. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas. Peu importe. Parce que c'était pour le bien de l'Église, pour faire du bien à l'Église, pour faire du bien à ton serviteur, ou je ne sais plus quoi. Il n'y a pas de bonne raison pour ne pas écouter la voix de l'Éternel. Il n'y en a pas. Il avait des occasions de se repentir. Il avait plein d'occasions, depuis le chapitre 10, d'amender sa vie, de redimensionner sa vie, de fixer de nouveaux paramètres. Il a laissé passer toutes ces occasions. Il ne l'a pas fait. Et à la place, il accuse les autres. C'est le peuple. Il y a un endroit où il dit, ils les ont ramenés de chez les Amalécites. Mais c'est lui le roi. Les gens lui obéissaient à l'œil et au doigt. Comment peut-il dire maintenant, ils les ont ramenés? C'est lui qui passait les instructions. Alors, je parlais du plan rédempteur que je voulais introduire à la fin. Ce qu'il fait là, c'est pas ce que Jésus fait. Hein? Avez-vous remarqué cela? Jésus ne fait pas cela. Jésus, comme loin de Dieu, tel que promis à David, Jésus comme le vrai chef, le vrai roi, parce que, au demeurant, David n'a pas fait mieux. Salomon n'a pas fait mieux. Sauf que ces gens-là, ils savent reconnaître leurs péchés et se repentir. Est-ce que l'Église est là? Pourquoi je le dis? C'est pour introduire le plan rédempteur. C'est pour dire que là où Saül a échoué, Jésus, lui, a réussi. Est-ce que l'Église est là? Jésus n'a pas donné, quand il a senti l'horreur, la fureur de la mort et la fureur de la colère de Dieu, il ne s'est pas rétracté de sa mission, il avance quand même à la croix. Le texte est écrit pour que Israël, les juifs, sachent que
Là où les rois d'Israël ont échoué,
le divin roi a réussi lui. Là où David a échoué, là où Salomon a échoué, là où Saül a échoué, le Christ a réussi, frères et sœurs. Le Christ, quand il a senti la mort venir, il a prié, mais il n'a pas dit: Seigneur, la manière dont je vois les choses, au lieu de donner toute ma vie, je vais donner un bras. Est-ce que c'est le bras que Christ a donné à la croix? Ah Seigneur, je m'étais disposé de toute l'éternité pour mourir selon ta volonté, mais cependant, à sentir venir la mort, je vais donner une jambe, un doigt. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Il a donné tout lui-même, frères et sœurs. C'est pour dire que Jésus n'est pas camarade Saül, n'est pas camarade David, n'est pas camarade Salomon. C'est pas terminé. Deuxièmement, tandis qu'il est pris la main dans le sac, il négocie, il parlemente, il plaide, il argumente avec Dieu, à travers l'Église, c'est-à-dire Samuel. Et quand il voit que ça n'a pas marché, il a jeté le blâme, les accusations, la responsabilité sur le dos du peuple que Dieu lui a confié. Avez-vous remarqué cela? Mais Christ lui fait le contraire. Il prend les accusations. Il les prend lui. Alors que les accusations ne lui appartiennent même pas. Alors qu'il n'est même pas fautif, il les prend. Et à contrario, à l'opposé, lui qui est concerné, lui qui est le pécheur, lui qui est le vrai coupable, il met sa responsabilité sur le dos du peuple. Dieu avait promis un roi à Israël et par extension à toutes les nations de la terre, à la personne du oint, le vrai oint, le oint par excellence, Jésus de Nazareth. Si Jésus n'est pas là pour vous accabler de fardeau. Jésus n'est pas là pour vous accabler de tourments, de souffrances. Jésus n'est pas là pour vous accabler d'accusations. Jésus n'est pas là pour mentir à ton sujet. Jésus n'est pas là pour te calomnier. Jésus n'est pas là pour t'enterrer. Jésus n'est pas là pour t'écraser. Jésus n'est pas là pour t'humilier. C'est le monde, c'est la télévision, c'est Internet quand ils sont pervertis qui sont là pour faire ces choses. Mais Jésus est là pour te restaurer, pour te donner la vie éternelle, pour pardonner tes péchés, pour prendre tes accusations, pour accepter que la colère de Dieu tombe sur lui, pour que toi-même tu sois affranchi de la condamnation éternelle. Est-ce que l'Église est là? L'attitude de Saül tranche avec l'attitude du Fils de Dieu. Vous pouvez avoir le temps de regarder ça. Vous pouvez avoir le temps de regarder ça. Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il ne ment pas, il ne plaisante pas, car Dieu avait promis un roi. Il parle pour de vrai. Il ne s'en moque pas. Il ne se moque pas de la promesse de Dieu, de Jésus. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? C'est le roi. Quand Dieu en avait assez avec David, avec Saül, avec Salomon, Dieu savait qu'autant marqué, il enverrait un vrai roi. Cette fois-ci, non seulement un roi temporel pour Israël, mais pour toutes les nations de la terre qui l'accepteraient comme roi. Et c'est fait. Les mages ont reconnu que la promesse de Dieu est accomplie. Il parle pour vrai. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Si ce n'était pas vrai, Hérode ne serait jamais troublé, frères et sœurs.
car il avait des conseillers spirituels qui lui donnaient leur juste par rapport à la réalité de l'accomplissement de la promesse de Dieu, frères et sœurs. Il a paniqué avec raison parce que le roi était né vraiment. Est-ce que l'Église est là? Il les assembla et lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Saül était qui? Un roi ou un chef? Il était les deux. Il était un roi. C'était un chef, frères et sœurs. Il occupait toute la partie politique de la chose de Dieu, de la gouvernance d'Israël. Il était un chef, il était un roi. Alors l'Écriture dit encore ici que le chef est arrivé. L'heure a sonné pour la naissance du chef. Le chef est là. Si aujourd'hui tu veux rencontrer le chef, il est là dans la salle, il est prêt à se laisser trouver par toi. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Le chef est là. Tu n'as qu'à fermer les yeux et dire, Jésus, je te reconnais comme le chef promis, comme le roi promis. Je sais que tu es né pour me donner la vie éternelle. Tu es né pour mon salut. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis séparé de Dieu. Je veux réintégrer la communion de Dieu, le royaume de Dieu. Je veux réintégrer la vie de Dieu. Je sais que c'est en toi que cette réintégration, que ce salut, cette vie éternelle est possible. Je m'en remets à toi. Aie pitié de moi, sauve-moi. Et le roi va rentrer dans ta vie. Pas pour t'accuser, pas pour te rabaisser, mais pour te faire de toi aussi un roi. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs?
Il est le sauveur, le roi, le chef promis. Il a réussi là où Saül a échoué. Après le plan rédempteur, je termine avec ces cinq affaires-là. Je les expliquerai pas. Voici les leçons essentielles. Donc, j'ai introduit le plan rédempteur. Maintenant, voici les leçons essentielles pour la vie pratique de tous les jours. Je termine. L'orgueil. Première leçon. L'orgueil est mauvais conseiller. Est-ce que l'Église a là?
Amen.
Première leçon de cette histoire. On ne rentrera pas dans les détails. L'orgueil est mauvais conseiller. C'est par orgueil qu'il a épargné la vie à Agag, je vous l'ai dit. Et c'est par orgueil qu'il a capturé vivante les bêtes grasses. Ok? Il croyait, son orgueil consistait à croire que sa voix est la meilleure que celle de Dieu. Son plan est meilleur que le plan de Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Son orgueil consistait à croire que les ordres de Dieu, les instructions de Dieu n'étaient plus à la mode. C'est ça son orgueil. Est-ce que l'Église est là? Deuxièmement, la vérité est une force à rechercher. Est-ce que l'Église est là? La vérité est source de bénédiction. Peu importe ce que cela vous coûte, attache-toi à la vérité. Ça va, frères et sœurs? Peu importe. Ça va vous coûter des relations. Ça va vous coûter parfois même des carrières, des maisons, des amis. Et j'en passe, où qu'on est. Mais restez attachés à la vérité, parce que la vérité finira toujours par triompher. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Je n'aurai pas le temps de débattre de cela. Je voulais parler du plan rédempteur. Troisième chose. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça va, frères et sœurs? Il vaut mieux obéir à Dieu que de prétendre faire d'autres choses que Dieu parfois ne demande même pas. Il faut d'abord obéir à Dieu. Quatrième leçon. Quand Dieu vous élève, reste soumis à Dieu. Ça va, frères et sœurs? Je l'avais dit la fois passée, hein, je le redis. Quand Dieu vous élève, reste soumis à Dieu. Ça va? Soyons prudents. Soyons prudents dans le service de Dieu. Hein? Que chacun reste égal à lui-même après avoir été élevé par Dieu. Reste le même homme que tu as été avant d'avoir été élevé par Dieu. Reste la même femme que tu as été avant d'avoir été élevé par Dieu. Ça va, l'Église? Tu as toujours été un homme loyal, intègre, sincère, attaché à Dieu. Continuez de l'être, même après avoir été élevé en dignité. Pourquoi? Parce que Dieu peut reprendre la bénédiction qu'il a donnée. Ça va? C'est ton salut qui est éternel. Tes bénédictions matérielles ne sont pas éternelles. La vie a gain rêvé. Ça va, frère et soeur? La vie a gain rêvé. Voilà. S'il y a quelqu'un qui aimerait réagir sur le sermon, vous pouvez, en tout respect, en toute humilité, en tout amour, vous pouvez être là, vous pouvez rencontrer notre ami qui nous visite. D'après lui, je peux rencontrer n'importe qui veut réagir sur le sermon, veut me parler de comment Dieu vous a touché, vous a béni. Si vous avez des questions pour moi aussi sur le sermon, eh bien, ce sera possible pour se faire après le culte. Soyez patients parce que je vais parler à notre ami, à notre visiteur avant. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, frères et sœurs.